Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. 223 milliards de dollars pour libérer ou pour enfermer. C'est le montant record de l'aide internationale en 2023. La question est, pour quoi faire ? Aider les peuples à s'émanciper ou au contraire, les maintenir sous le contrôle des pays donateurs ? Des réponses avec Fatou Elisba, chercheuse à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, un laboratoire d'idées situé à Paris, qui a consacré un numéro de sa revue trimestrielle à cette question. Bonjour Fatou Elisba.
Bonjour.
Allez, 223 milliards, c'est plus que 2022. C'est à la fois réjouissant sur la générosité et très inquiétant sur le constat des difficultés que rencontrent les peuples.
Alors, est-ce que c'est réjouissant ou non ? Très bonne question. En réalité, il faut analyser l'aide internationale comme un instrument de soft power. En réalité, spécifiquement des pays donateurs, qui sont des pays majoritairement occidentaux. Dans un second temps, il faut constater qu'aujourd'hui, l'aide internationale est face à de nombreux défis. Des défis liés aux crises et conflits multiples dans de nombreuses régions du monde. Une accélération des conflits qui sont toujours plus alarmants. Des situations encore plus alarmantes liées à l'urgence climatique, ouais. Finalement, qui est un gros sujet. Hein. Les questions d'accès à la santé, les questions de développement, de laisser pour compte des populations toujours plus vulnérables. Donc, une invisibilisation générale des groupes vulnérables. Donc, finalement, aujourd'hui, oui, c'est une bonne nouvelle en soi, mais la question réelle, c'est est-ce que l'instrument et les opérations qui découlent de ce modèle d'aide internationale, est-ce qu'il est efficient, oui ou non ?
Bonne nouvelle, mais peut-être aussi aide insuffisante, vu la multiplication des crises dont vous venez nous parler. C'est pas 223, mais peut-être le double.
Alors, je dirais pas forcément insuffisante, je dirais potentiellement mal imbriquée. Ouais. C'est-à-dire que il y a au niveau des acteurs de l'aide internationale et surtout de la part des ONG, des organisations de la société civile, des universitaires, il y a une volonté de repenser, de faire une nouvelle réflexion sur ce modèle international qui est issu de la colonisation, ça il faut le dire. Ouais. C'est un modèle aujourd'hui qui est toujours emprunt à des pratiques néocoloniale et à une vision néocoloniale dans la prise en compte des crises dans le monde.
Mmh. C'est pour ça que vous titrez donc ce numéro de la revue « Instrument d'émancipation ou de contrôle ?» Plutôt de contrôle ou d'émancipation aujourd'hui ?
Alors, la réponse, elle ne va pas être toute faite. Je pense que... Pour moi, je serais plus au niveau de contrôle.
D'accord.
Mais il y a des stratégies d'émancipation. En fait, ça dépend quels acteurs vous analysez, puisque l'aide internationale, c'est plusieurs acteurs, finalement. Ouais. C'est plusieurs acteurs qui sont en relation, qui ont des pratiques sur le terrain, qui ont des pratiques au niveau des sièges. Finalement, on peut se poser la question... Où sont les intérêts lorsqu'on donne autant ? Les intérêts, ils sont finalement les priorités des programmes. Ça dépend des pays donateurs.
Ouais.
Mais
Donc contrôle pays donateurs, émancipation, ce que vous voyez sur le terrain, plutôt des peuples qui en ont besoin de cette
Alors,
aide.
Moi, je dirais plutôt émancipation des organisations de la société civile. Parce que
D'accord,
dans les pays récipiendaires.
Ouais.
C'est-à-dire, il y a aussi aujourd'hui une volonté valoriser ces organisations de la société civile. Alors, je parle au niveau des ONG, au niveau des programmes, au niveau des opérations humanitaires et de développement. Il y a une volonté de valoriser les sachants. Et les sachants, ouais. qui sont-ils ? Ce ne sont pas forcément les professionnels humanitaires du Nord. Les sachants, ça va être le tissu associatif des pays récipiendaires. Ça va être les petites organisations communautaires qui travaillent en direct avec les peuples dans le besoin, finalement. Mmh. Donc finalement, c'est eux, les sachants, c'est eux qu'il faut émanciper et on tend potentiellement à des stratégies d'émancipation.
De leur part. Mais est-ce que de la part des donateurs, il y a cette conscience ou pas ?
Il y a cette conscience, en tout cas. Il y a cette conscience, dans le paraître, il y a cette conscience-là. Il y a cette volonté-là, je pense.
Mais factuellement
Factuellement, je pense que tout ce que je pourrais dire, c'est que les grands donateurs, publics et privés, vont là où sont leurs intérêts.
Voilà.
Mmh. Alors, est-ce que leurs intérêts sont dans l'émancipation de certaines organisations de la société civile? Pourquoi pas? Est-ce que il faut tendre vers une transition démocratique dans certains pays? Donc, pour ce faire, il faut valoriser la société civile. Oui. Pourquoi pas? Mais ils dépendent d'intérêts économiques dans la prise en charge des crises. Ouais. Et finalement, ça impacte la répartition de l'aide internationale.
Est-ce que l'aide qui vient du Nord, avec ces gens du Nord, est-ce qu'ils arrivent toujours avec leurs schémas sociaux, culturels, etc., qu'ils souhaitent imposer, même inconsciemment, à travers cette aide? Par exemple, je prends la question des femmes, qu'on retrouve dans pratiquement toutes les institutions internationales quand il y a des aides, la Banque mondiale, le FMI, etc. Il y a toujours un paragraphe où on doit s'impliquer sur la question de l'égalité des femmes.
Alors, pour ma part, je dirais quand même que l'égalité des sexes, c'est un facteur sine qua non du développement durable. Ouais. Ça, on ne va pas aller à l'encontre de ça. Le problème, il est dans la question du consensus international sur l'égalité des sexes. Tous les États ne sont pas en accord avec ce sujet, premièrement. Ouais. Deuxièmement, le fait qu'il y ait une inscription dans les accords ou traités sur le développement durable, et peu importe, en tout cas au niveau des négociations internationales, à chaque fois, s'il y a une inscription sur les femmes, ce n'est pas forcément sur les femmes, mais c'est plutôt une sensibilité qui concerne l'égalité des sexes.
D'accord, ce n'est pas une conditionnalité à l'aide.
Pas forcément.
Pas forcément.
Non, ce n'est pas une conditionnalité à l'aide. Sur les questions climatiques, sur les questions humanitaires, il faut qu'il y ait forcément une sensibilité générale. Là, je généralise énormément, ouais. Mais il faut qu'il y ait une sensibilité à l'égalité des sexes. Mais pour ma part, on ne va pas assez loin sur la question d'inégalité sexe. On ne va pas prioriser spécifiquement l'égalité des sexes. Il y a une prise en compte de l'égalité des sexes et de la volonté d'améliorer la condition des femmes et surtout en matière de santé, d'accès aux ressources naturelles, d'émancipation économique et politique. Mais en soi, le fait qu'il n'y ait pas de consensus interétatique sur l'inégalité, sur la prise en charge des inégalités et sur l'égalité des sexes fait qu'on ne va pas plus loin.
Ouais. Vous avez travaillé dans ce numéro plus spécifiquement sur ce qu'on appelle les conflits oublié ou négligé. Il y a certaines ONG qui utilisent ça. C'est à peu près une dizaine de conflits oubliés qui se trouvent pour la plupart en Afrique. Pourquoi nous, le Nord, on ne s'intéresse pas à ces conflits?
Alors, ils sont beaucoup plus que 10.
Oui, mais il y a des 10 premiers sont en Afrique.
Oui, alors cette année, le rapport de CARE a fait état de...
Breaking the silence.
Exactement, ils ont fait état des 10 crises oubliées des médias, en tout cas de l'espace médiatique. Et ils sont, en tout cas, ces crises sont toutes sur le continent africain. Alors, j'irai un peu plus large que les conflits. On parle de crises en règle générale. Les crises, ça peut être lié à la pauvreté chronique, ça peut être essentiellement lié aussi au changement climatique, aux catastrophes naturelles.
Mais pourquoi on ne s'y intéresse pas? Parce qu'il n'y a pas que les journalistes, il n'y a pas que la presse, il y a les institutions internationales aussi.
Oui, alors en fait, les crises oubliées, elles se définissent par le fait qu'elles ne soient pas à la une de tous les médias, le fait qu'il n'y ait pas une visibilité médiatique que je dirais suffisante. Et dans un deuxième temps, et ça c'est la grosse partie qui fait qu'on oublie ces crises, c'est le manque d'initiative politique.
Ouais.
Et effectivement, nous, ce qu'on a voulu voir dans ce numéro, c'est que il y a un problème lié à la répartition de l'aide internationale où on va focus. Et alors, évidemment, les médias vont là où il y a les
Ukraine, Gaza. Okay.
Voilà, vont là où il y a les priorités politiques internationales. Et finalement, des zones comme l'Est de la RDC, comme le Soudan.
La Zambie, l'Ouganda.
Exactement, restent encore sous silence.
Mais même le Sénégal, vous en parlez aussi.
Oui, alors effectivement, le Sénégal a subi l'année dernière un problème lié à l'allocation des ressources, à l'accès aux besoins de première nécessité. Et de fait, aujourd'hui, le Sénégal, alors on le voit, c'est pas forcément visible,
ouais, c'est vrai.
Mais effectivement, il est actuellement beaucoup de populations subissent une pauvreté chronique.
Donc comment on fait pour éviter d'oublier ces conflits-là? Ça veut dire qu'il faut vraiment une volonté politique.
Alors je pense qu'il faut des initiatives au niveau alors, replacer ces crises comme prioritaires au niveau des agendas internationaux, ouais. Premièrement. Deuxièmement, repenser, et ça, je pense que c'est une réflexion qui va s'intégrer sur le temps long, ouais. C'est repenser le modèle d'aide internationale. Ouais. Repenser et admettre la dialectique Nord-Sud qu'il y a au sein de ce modèle d'aide internationale. Repenser les pratiques, repenser la fabrique, repenser les modes de financement, parce qu'aujourd'hui, finalement, ce qu'on va voir, c'est que les organisations de la société civile du Sud sont beaucoup sous-traitantes oui. Des programmes pensés par le Nord, finalement.
Merci beaucoup, Fatou et Lisba, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.